franceinter.fr.
Salut les amis de la Cosmopolitaine, pas de bruit s'il vous plaît, suivez-moi sur la pointe des pieds. Nous sommes actuellement dans les coulisses de l'Odéon, théâtre de l'Europe, où d'un instant à l'autre, le rideau va se lever.
Bonsoir et merci d'être venus si nombreux ce soir. Alors, j'en suis particulièrement heureuse parce que cette soirée, la 30e du genre dans la série Exil des stades écrivains, eh ben, ce sera la dernière en fait. La toute dernière. Eh oui, c'est comme ça. Donc, nous avons voulu pour cette dernière vous présenter un personnage réellement extraordinaire, romanesque dans sa vie, dont on n'a pas bien compris la complexité. Casanova, né à Venise en 1725 et mort quasiment en exil en 1798. Casanova, séducteur impénitent, mais aussi tour à tour abbé, écrivain, musicien, diplomate, chevalier d'industrie, espion, jouisseur, libre penseur et qui était convaincu d'avoir deux raisons d'être venu au monde. Un, aimer les femmes, et deux, se faire aimer d'elles. Alors, pour nous parler de ce merveilleux personnage, j'ai pensé tout de suite à Chantal Thomas, vous savez, la grande romancière Chantal Thomas, essayiste, qui est dans le 18e à l'aise comme un poisson dans l'eau. Chantal Thomas. Bonsoir Chantal.
Bonsoir Paula.
Pour lire les textes de Giacomo Casanova, ce sera le comédien que nous aimons beaucoup, Christophe Bro. Christophe, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Voilà. Et alors, à table, mesdames, madame, monsieur.
Exil.
Tous les personnages depuis 1945 sont des contestataires.
Je crois que je vivais dans la littérature et tout d'un coup, il a éveillé la femme en moi.
Vous savez, le jugement que je peux porter sur l'Égypte, ce sera jamais juste.
J'ai quitté New York pour Paris en disant à moi-même que ce ne serait pas pire que les choses qui vont m'arriver si je reste dans mon pays.
Exil, destin d'écrivain, une émission de Paula Jacques au Théâtre de l'Odéon.
Amour, je t'en conjure. Souffre que je te retire ces vêtements trop sévères. Car je ne veux rien d'autre que mon corps et ton corps et l'amour.
Chantal Thomas, alors Casanova, c'est devenu même un nom, une affectation de séduction, le casanovisme, hein, donc presque un cliché. Et pourtant, dans ce beau livre que vous lui consacrez, vous vous êtes approché, dites-vous, d'une figure singulière, irréductible à nos concepts modernes d'intelligence ou de désir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous ne le comprenons pas, que...
Une des premières choses que je voulais, c'est sortir Casanova du mythe de Casanova et revenir plus près de l'écrivain qui a su raconter non seulement un monde qui disparaissait au moment où il écrivait, mais aussi son rapport unique à ce monde, c'est-à-dire un rapport à la fois de jouissance et d'intelligence des situations, mais pas une intelligence abstraite.
Alors, vous voyez, moi, je pensais, dans mon ignorance profonde, que Casanova, au fond, c'était un produit typique du XVIIIe siècle libertin, qui n'était pas singulier.
C'est un produit typique, il n'intéresserait personne. Donc,
Y compris les femmes, peut-être.
Oui, même pas lui-même. Non, ce que je pense, c'est que sa singularité, elle tient d'abord au fait qu'il était vénitien. On en parlera plus tard, mais qu'il était un écrivain français vénitien, et aussi que moi j'avais beaucoup lu le Marquis de Sade, et avec Casanova j'ai eu l'impression tout d'un coup que le libertinage prenait les grands chemins, que c'était au hasard des situations. Au fond, il introduisait le hasard qui n'est pas dans l'univers de Sade ni dans l'univers de Crébillon, et c'est en ce sens qu'il est un libertin. Homme de fortune.
Vous avez d'ailleurs écrit un ouvrage sur Sade, et c'est vrai qu'il n'y a jamais, selon vous, en tout cas selon les écrits, de perversion chez Casanova. Le masochisme, le sadisme, le fétichisme, ça ne le concerne absolument pas. Au fond, il a des rapports qu'on dirait presque normaux avec toutes ces femmes.
C'était un joueur. Il avait l'amour de l'imprévu. Et lire sa vie, c'est entrer dans ce champ où, à chaque fois, quelque chose d'imprévu, et un événement, pas seulement un événement amoureux, mais aussi un personnage étrange, un pays inconnu, une phrase inconnue surgit.
En fait, c'était un homme ivre de liberté et d'aventure. Et puisque dans cette série, il s'agit d'exil, Casanova va connaître plusieurs exils sans arrêt. Est-ce que vous avez l'impression, Chantal Thomas, que cette notion d'exil apparaît dans son œuvre ? Est-ce qu'il il souffre d'être loin de sa patrie ?
C'est un exil en plusieurs phases. Mais la première fois où il quitte Venise, il a 19 ans, il est abbé, si je puis dire, mais c'était vrai. Et il a cette phrase que je trouve merveilleuse, « Je suis parti la joie dans l'âme sans rien regretter ».
Eh bien justement, Christophe Brault, s'il vous plaît, alors c'est un extrait de ses mémoires, son départ de Venise.
La péote dans laquelle je devais m'embarquer pour aller à Chiozza, ne devant se détacher du rivage qu'à la pointe du jour, je suis allé passer la courte nuit entre les bras de mes deux anges, qui pour le coup ne se flattèrent point de me voir encore. De mon côté, je ne pouvais rien prévoir, car m'abandonnant au destin, je croyais que celle de penser à l'avenir devenait une peine inutile. Nous passâmes cette nuit entre la joie et la tristesse, entre les ris et les larmes. Je leur ai laissé la clé. Cet amour qui fut mon premier ne m'a presque rien appris à l'égard de l'école du monde, car il fut parfaitement heureux, jamais interrompu par aucun trouble, ni terni par le moindre intérêt. Nous nous reconnûmes tous les trois fort souvent en devoir d'élever nos âmes à la Providence éternelle pour la remercier de la protection immédiate avec laquelle elle avait tenu loin de nous tout accident qui aurait pu troubler la douce paix dont nous avons joui. Je suis allé m'embarquer à la petite place de Saint-Marc. La veille, M. Grimani m'avait donné 10 sequins, qui, selon lui, devaient m'être plus que suffisants à vivre dans tout le temps que je devais rester dans le lazaret d'Ancône pour faire la quarantaine. Après ma sortie du lazaret, il n'était pas possible de prévoir que je pusse avoir besoin d'argent. Puisqu'ils n'en doutaient pas, mon devoir était d'être aussi certain qu'eux. Mais je n'y pensais pas. Je me consolais, cependant, de ce que j'avais dans ma bourse à l'insu de tout le monde, 40 beaux sequins qui relevaient beaucoup mon jeune courage. Je suis parti avec la joie dans l'âme, sans rien regretter.
Chantal Thomas, pourquoi ce premier départ ? Est-ce que c'est un départ volontaire ?
C'est-à-dire, c'est un moment où il pense devenir abbé, mais oui. Il n'y pense pas très sérieusement. C'est une espèce d'acte d'amour à l'égard de sa grand-mère, qu'il adorait.
Oui. Alors, Chantal Thomas, c'est un garçon qui a été élevé par sa grand-mère. Ses parents sont des comédiens professionnels qui sont tout le temps sur les routes. Et c'est un enfant très mal aimé par sa mère.
Ses parents sont des comédiens, mais c'est des comédiens assez prestigieux, les deux. Et sa mère va être une comédienne, la grande comédienne de Goldoni. Elle est très célèbre, en fait. Zanetta Casanova, elle est très célèbre et très belle. Il n'est jamais question d'elle dans l'histoire de ma vie. Mais ce qui se passe, c'est que lui est l'aîné et la mère et le père partent jouer à Londres et ils s'absentent et ils n'attendent rien de cet enfant.
Qui est chétif.
Parce qu'il est, il est chétif, il saigne constamment du nez, ce qui est assez étrange, et il est très affaibli et un peu hébété. Et il y a cette phrase qui est quand même quelque chose du siècle, d'une sorte de dureté, qui est « on ne me parlait pas car on ne pensait pas que j'allais vivre longtemps ».
Christophe Brault.
Au commencement d'août de l'année 1733, l'organe de ma mémoire se développa. J'avais donc 8 ans et 4 mois. Je ne me souviens de rien qui puisse m'être arrivé avant cette époque. Voici le fait. J'étais debout au coin d'une chambre, courbée vers le mur, soutenant ma tête et tenant les yeux fixés sur le sang qui ruisselait par terre, sortant copieusement de mon nez. Marzia, ma grand-mère, dont j'étais le bien-aimé, vint à moi, me lava le visage avec de l'eau fraîche et, à l'insu de toute la maison, me fit monter avec elle dans une gondole et me mena à Murano. C'est une île très peuplée, distante de Venise d'une demi-heure. Descendant de gondole, nous entrons dans un taudis où nous trouvons une vieille femme assise sur un grabat, tenant entre ses bras un chat noir et en ayant 5 ou 6 autres autour d'elle. C'était une sorcière. Les deux vieilles femmes tinrent entre elles un long discours dont j'ai dû être le sujet. À la fin de leur dialogue en langue fourlane, la sorcière, après avoir reçu de ma grand-mère 1 ducat d'argent, ouvrit une caisse, me prit entre ses bras, m'y mit dedans et m'y enferma, me disant de ne pas avoir peur. C'était le moyen de me la faire avoir si j'avais eu un peu d'esprit. Mais j'étais hébété. Je me tenais tranquille, tenant mon mouchoir au nez parce que je saignais, très indifférent au vacarme que j'entendais faire au dehors. J'entendais rire, pleurer tour à tour, crier, chanter et frapper sur la caisse. Tout cela m'était égal. On me tira enfin dehors, mon sang s'étanche. Cette femme extraordinaire, après m'avoir fait 100 caresses, me déshabille, me met sur le lit, brûle des drogues, en ramasse la fumée dans un drap, m'y emmaillote, me récite des conjurations, me démaillote après, et me donne à manger 5 dragées très agréables au goût. Elle me frotte tout de suite les tempes et la nuque avec un onguent qui exhalait une odeur suave. Et elle me rhabille. Elle me dit que mon hémorragie irait toujours en décadence, pourvu que je ne rendisse compte à personne de ce qu'elle m'avait fait pour me guérir. Et elle m'intime, au contraire, toute la perte de mon sang et la mort, si j'osais révéler à quelqu'un ces mystères. Après m'avoir ainsi instruit, elle m'annonce une charmante dame qui viendrait me faire une visite dans la nuit suivante, dont mon bonheur dépendait, si je pouvais avoir la force de ne dire à personne d'avoir reçu cette visite. Nous partîmes et nous retournâmes chez nous.
Merci Christophe. Chantal Thomas, est-ce que la prédiction de la sorcière se réalise? Est-ce qu'il reçoit cette même nuit, à l'âge de 8 ans donc, la visite d'une charmante jeune dame?
Mais oui, absolument. Elle apparaît, il garde le secret pour lui et il en est, dit-il, presque guéri.
Alors, une question un peu indiscrète, mais après tout, il s'en cache pas lui-même. Quelle est la première femme? À quel âge, donc, il fait l'amour avec une femme?
Sa première histoire d'amour, elle est quand il a 12 ans à peu près. Et c'est parce que sa mère, sans l'aimer vraiment individuellement, s'occupe de lui quand même. Et on le met à l'âge de 12 ans dans un pensionnat à Padoue, où il découvre d'abord que c'est dur d'être sans sa grand-mère. Et aussi, il a atrocement faim, et il découvre aussi un mode de vie terrible avec des poux, etc. Et l'abbé qui tient ce minuscule pensionnat s'entiche de lui et l'extrait du petit groupe et le traite mieux. Mais surtout, la personne qui le traite mieux, c'est la sœur de l'abbé, la petite Bettina, qui vient le matin l'habiller, qui lui glisse les bas, qui le lave, etc. Elle est un peu plus âgée que Casanova, donc elle doit avoir 14 ans ou un truc comme ça, et il en est fou. Et il découvre pour la première fois à la fois la splendeur de cet être et aussi la perfidie.
Elle vint un matin à mon lit me portant des bas blancs tricotés par elle. Et après m'avoir coiffé, elle me dit qu'elle avait besoin de me les chausser pour voir leurs défauts et se régler pour m'en faire d'autres. Le docteur était allé dire sa messe. Me mettant les bas, elle me dit que j'avais les cuisses malpropres. Et tout de suite, elle se mit en devoir de me les laver, sans m'en demander la permission. je fus honteux de pouvoir lui paraître honteux, ne m'imaginant pas d'ailleurs que ce qui est arrivé arriverait. Bettine, assise sur mon lit, poussa trop loin son zèle pour la propreté. Et sa curiosité me causa une volupté qui ne cessa que quand elle se trouva dans l'impossibilité de devenir plus grande. Me trouvant calme, je me suis avisé de me reconnaître pour coupable et je me suis cru en devoir de lui demander pardon. Bettine, qui ne s'y attendait pas, après y avoir un peu pensé, me dit d'un ton d'indulgence que toute la faute était d'elle, mais que ça ne lui arriverait plus. Elle me quitta ainsi, m'abandonnant à mes réflexions. Elles furent cruelles. Il me semblait de l'avoir déshonorée, d'avoir trahi la confiance de sa famille, d'avoir violé la voie de l'hospitalité et d'avoir commis le plus grand des crimes. Crime que je ne pouvais réparer que l'épousant, si cependant elle pouvait se résoudre à prendre pour mari un impudent comme moi, indigne d'elle. J'ai attendu jusqu'à minuit, sans grande inquiétude, mais lorsque j'ai vu passer 2, 3 et 4 heures sans la voir paraître, je devins furieux. La neige tombait à gros flocons, mais je mourais plus encore de rage que de froid. Une heure avant jour, je me suis déterminé à descendre sans souliers, craignant de réveiller le chien pour aller me mettre au bas de l'escalier, à 4 pas de la porte qui aurait dû être ouverte si Bettine en fût sortie. Je l'ai trouvée fermée. On ne pouvait la fermer que par dedans. J'ai pensé qu'elle pouvait s'être endormie. Mais pour l'éveiller, j'aurais dû frapper fort et le chien aurait aboyé. De cette porte à celle de son cabinet, il y avait encore 10 ou 12 pas. Accablé par le chagrin et ne pouvant me déterminer à rien, je me suis assis sur le dernier degré. Vers la pointe du jour, transi, engourdi, grelottant, je me détermine à retourner dans ma chambre, car la servante, me trouvant là, m'aurait cru devenir fou.
Merci Christophe Brault. Chantal et Christophe, vous avez vu certainement le film que Luigi Comencini consacre à Casanova, à la jeunesse de Casanova. Et dans ce film, Chantal, il prolonge la scène de Bettine qui vient dans sa chambre et qui s'en va par une découverte du petit Giacomo, c'est que Bettine fait affaire avec un autre garçon plus âgé, que lui est là, c'est le désespoir absolu.
Oui, il est choqué, d'autant que, alors qu'il attend derrière la porte, l'autre, le rival plus grand et plus fort et brutal, lui envoie un énorme coup de pied. Donc c'est assez rude.
Bon, donc là, il était conduit, mais il va beaucoup se rattraper par la suite. Il va séduire toutes les femmes qu'il voudra. Et moi, je me posais la question, comment est-il physiquement? Est-ce que c'est un très bel homme? Est-ce que l'enfant chétif est devenu magnifique? Parce que vous savez, dans les mémoires de son ami, le prince de ligne, il crie cette chose assez étrange. S'il n'était pas laid, il serait beau. Ça veut dire quoi? Il est comment physiquement? Il est grand, il est brun, bon,
il
est...
Il y a une chose qui le caractérise et qui, je crois, a beaucoup joué dans ses séductions, c'est qu'il était extrêmement grand, à une époque où les gens étaient plutôt petits. Il avait aussi, je pense, des traits assez marqués. Il y a des tableaux faits, en particulier de profil, faits par son frère, qui était peintre, Francesco. Et il a un nez très marqué, un front assez marqué aussi, assez vaste. Il avait la peau pour une... mat, ce qui n'était vraiment pas une chose de l'époque, où il fallait être pâle,
très pâle,
blanc,
poudré.
Voilà.
Et d'où vient sa séduction alors?
Mais de lui, hein.
Mais encore, son esprit, ça...
D'abord le désir, je pense que la première chose à la séduction, c'est d'être emporté par le désir.
C'est ça, aucune femme ne peut résister au désir pressant, si pressant de Casanova.
Mais d'abord, il y a des femmes qui résistent. Ensuite, ça se passe à deux. C'est pas comme s'il y avait une machine de guerre qui avançait et que d'autre côté, il y a quelqu'un dont on fait la conquête. Ça, c'est vraiment les liaisons dangereuses.
Oui.
Et c'est un schéma guerrier.
Qui ne s'applique pas à Casanova.
Non, je pense pas. Et qui s'applique à aucun vrai amoureux.
amoureux des femmes. Dans ce livre tout à fait extraordinaire qui s'appelle Un voyage libertin, Chantal Thomas, vous nous dressez un inventaire incroyablement animé et presque enthousiaste, oui, enthousiaste de toutes les conquêtes faites par Casanova, femme par femme, il y en a énormément.
Moi, j'ai choisi celles qui sont les mieux dessinées et les plus caractérisées, celles qui nous donnent envie de les rencontrer.
Est-ce que je me suis posé la question, à part cet épisode avec Bettine, il ne semble pas qu'il ait beaucoup souffert auprès des femmes, parce qu'il écrit quelque part, si les plaisirs sont passagers, les peines le sont aussi. Au fond, est-ce qu'elles sont un peu remplaçables les unes par les autres?
Ça, c'est un des mystères de l'esprit libertin, c'est d'aimer à la fois, à chaque fois, une personne, une femme, mais il a aussi eu des histoires, pas beaucoup, mais des histoires
avec
masculines.
Les hommes. Donc il était vraiment très très libre de ses mœurs.
Alors ça, je pense que c'est une chose qu'on imagine mal au XVIIIe siècle, c'est qu'il y avait, par exemple, le prince de Ligne ne se cache absolument pas sur ses liaisons homosexuelles de passage. Il y a une sorte de... Il y a une immoralité, disons, une amoralité,
plutôt, oui,
qui est dans l'air et qui commence avec la régence, c'est-à-dire à la mort de Louis XIV.
Milo calla la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, tengo che quella cerca menar. Tengo che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senta con ordine la razzia, chi il minuetto, chi la polia, chi la levanna fa regolar. Chi il minuetto fa regolar, chi la levanna fa regolar, chi la polia fa regolar. Ed io frattanto dall'altro canto con questa quella uomo reggiar alla mia lista don Marmatina d'ora regina deve aumentar alla mia lista d'ora regina deve aumentar se trovi in piazza qualche ragazza tengo quella cerca però alla mia lista don Marmatina d'ora regina deve aumentar senza con ordine la razzia il minuetto il la polia il la levanna fare valore alla mia lista don Marmatina d'ora regina deve aumentar una regina deve aumentar una regina deve aumentar deve aumentar deve aumentar devi aumentar
Alors, à cette époque, il est introduit dans le grand monde, mais jusqu'ici, il courtise plutôt les actrices, les femmes du peuple, les prostituées. Pas beaucoup de grandes dames, parce que quelquefois, quand il en séduit une, elle se venge cruellement sur lui, elle le traite comme un domestique ensuite. Il se méfie de l'aristocratie.
Et vice-versa, parce que Casanova nous raconte quelque chose sur le siècle dit des Lumières, c'est que c'est à la fois un clos, c'est-à-dire il y a vraiment des castes, mais en même temps, les aventuriers circulent quand même assez librement. Et il dit quelque chose sur cet effritement d'une société qui a été peut-être hiérarchisée, mais qui ne l'est plus, et qui, par ennui et aussi à cause de la passion pour le jeu, ouvre ses portes à des inconnus. Et ce qui est beau dans l'histoire de ma vie, je trouve que c'est ça, c'est cette traversée d'un monde et de différents milieux, et c'est une espèce de demande des deux côtés. Parce que les aventuriers veulent aller chez les aristocrates, parce que, évidemment, tout est plus brillant, c'est l'or, c'est... Et en même temps, les autres, ils mourraient d'ennui sans ces gens qui leur apportent la vie, le spectacle.
Ouais.
Exactement.
Ouais. L'esprit. Alors moi, il y a un mystère, parce que en lisant donc les mémoires de Casanova, je me suis aperçue, vraiment désolée, qu'il n'arrête pas d'attraper des maladies vénériennes.
Non,
si,
vous
si,
exagérez.
Il y a quatre ou trois épisodes, comment
c'est
qu'il survit
rien
à tout
par rapport
ça
à...
Ah, c'est rien. D'accord.
Non, mais surtout à chaque fois, il en relève. Et je pense qu'à cette époque, on ne faisait pas beaucoup la différence entre blénorragie et syphilis.
Bon, ben, il a une forte constitution quand même.
Hein. Et puis, bien sûr, c'est ça qui le sauve.
Je m'aperçois que dans la première partie de sa vie, il y a une sorte de constance dans ses fréquentations entre les curés, les abbés, les prêtres et les femmes qui entourent ces hommes sans femmes. Les deux sont liés. C'est-à-dire que c'est à cause d'un abbé qu'il va prodigieusement s'instruire. Quand il le recueille, l'abbé Gozzi, Casanova ne sait pas lire. Et puis tout d'un coup, l'abbé est complètement frappé par l'intelligence de cet enfant et il va lui permettre d'aller très très loin. Et c'est toujours à cause des femmes de l'entourage de l'abbé
que Casanova se met en faute, qu'il doute. Et en fait, le cheminement entre la religion et puis le péché de chair est très très proche, quoi.
Et oui, mais il est né à Venise en 1725. Il faut imaginer, Venise, c'est à la fois plus de 6 mois, je crois, de carnaval par an, et en même temps, une multiplicité d'églises dont on est encore les témoins. Donc cet entre-là, entre l'église, le spectacle, le masque, la faute, mais l'absolution, oui. Il est constitué de ça. Et quand tout à l'heure vous lisiez le passage où je disais qu'il était singulier, je crois que sa singularité, c'est ça. Sa singularité, c'est Venise. Il attire de Venise, de cette... Ça ne lui plaît pas, l'athéisme. Il ne fera jamais de déclaration d'athéisme. Il veut cette espèce de contact charnel et oscillant entre la faute et l'allégresse d'aller voir ailleurs.
Pourtant, c'est un siècle où on remet vraiment en cause l'existence de Dieu très fortement. Là, ce sont les esprits forts, les libres penseurs, qui va d'ailleurs fréquenter. Mais moi, je me pose une question, Chantal Thomas. Donc, c'est un aventurier, il va ici et là, au gré des rencontres, des invitations. Mais comment est-ce qu'il vit matériellement? Bon, il joue aux cartes, mais par ailleurs.
À deux moments de sa vie, il fait deux rencontres qui vont changer son destin financier. Une première fois, c'est à Venise, où il sauve un sénateur qui était dans une gondole en train d'avoir un malaise. Et il est là, et il lui fait exactement les bons gestes, et il le sauve. Et ce sénateur, Bragadin, jusqu'à la fin de sa vie, lui versera une pension.
Et là, il se promeut lui-même médecin, Casanova.
Absolument, guérisseur providentiel. Et ensuite, il y aura l'épisode de Madame d'Urfé, qui est aussi une ressource. Alors là,
c'est une extraordinaire histoire avec la marquise d'Urfé. Christophe Brault, lisez-nous d'abord le portrait que Casanova fait de Madame d'Urfé.
La grande chimère de Madame d'Urfé était celle de croire à la possibilité de parvenir au colloque avec les esprits qu'on appelle élémentaires. Elle aurait donné tout ce qu'elle possédait pour y parvenir, et elle avait connu des imposteurs qui l'avaient trompée, la flattant de lui apprendre le chemin. Se voyant alors vis-à-vis de moi qui lui avait donné une si évidente preuve de ma science, elle se croyait parvenue à son but. « Je ne savais pas, me dit-elle, que votre génie eut le pouvoir de forcer le mien à lui révéler ses secrets. » Il n'a pas eu besoin de le forcer, car il sait tout par sa propre nature. Et sait-il aussi ce que j'enferme de secret dans mon âme? Certainement, et il doit me le dire si je l'interroge. Pouvez-vous l'interroger quand vous voulez? Dans tous les moments quand j'ai du papier et de l'encre. Et je peux même le faire interroger par vous, vous disant son nom. Mon génie s'appelle Paralys. Faites-lui une question par écrit, comme si vous la faisiez à un mortel. Demandez-lui comment j'ai pu déchiffrer votre manuscrit, et vous verrez comme je l'obligerai à vous répondre. » Madame d'Urfé, tremblante de joie, fait sa question. Je la mets en nombre, puis en pyramide, comme je faisais toujours, et je lui fais tirer la réponse qu'elle met elle-même en lettres. Elle ne trouve que des consonnes. Mais moyennant une seconde opération, je lui fais trouver les voyelles qu'elle combine. Et voilà une réponse fort claire et qui la surprend. Elle voit sous ses yeux la parole qui était nécessaire à déchiffrer mon manuscrit. Je l'ai quittée portant avec moi son âme, son cœur, son esprit et tout ce qui lui restait de bon sens.
Chantal Thomas, alors quel est le mystère, la question qui taraude Madame d'Urfé et dont elle va demander la solution à Casanova? Qu'est-ce qu'elle veut?
Alors bon, Madame d'Urfé, c'est l'héritière, elle est richissime. Et quand Casanova la rencontre, il est dit qu'elle était haute comme le temps. En réalité, elle a 58 ans et il est son amant. Bon, ça, c'est un avantage secondaire pour elle. Ce qu'elle veut vraiment, c'est entrer en conversation avec les esprits élémentaires, l'eau, le feu, etc. Mais pour ça, il faut que ce soit un esprit mâle. Il faut que ce soit un esprit homme qui entre en contact avec eux. Donc, elle a cette idée assez étonnante de renaître
homme pour entrer en contact avec les esprits élémentaires et leur poser les questions qu'elle désire et fréquenter la lune, etc. Alors Casanova lui arrange une première cérémonie et ça marche pas très bien parce que l'ondine avec laquelle il est, il se dispute. Il en arrange une autre et là, ça marche très très bien, ça se passe à Marseille. Et l'idée donc, c'est qu'il va faire l'amour avec elle et elle va être enceinte de cette copulation géniale, au sens fort du terme, et elle sera le garçon qui va naître. Donc elle lui fait cette déclaration, vous serez à la fois mon mari et mon père.
C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant qu'elle va mettre au monde, ce sera elle transformée en garçon.
Ce sera elle transformée en garçon, voilà. Et il faut faire des sacrifices aux esprits élémentaires, et en particulier à la Lune, qui est quand même la déesse qui préside à toutes ces opérations. Et donc, elle réunit dans une cassette un tas sérieux de diamants, bijoux, etc. Et elle les dépose dans la voiture où elle est avec Casanova, qui fait l'échange avec une caisse de plomb. Et après, elle jette tout ça dans la Méditerranée. Sauf qu'évidemment, Casanova a gardé les bijoux et elle a mis les plombs dans la Méditerranée. À l'issue de cette opération, Casanova va être très, 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 très riche pendant très longtemps.
Mais il y aura quand même des conséquences. Il va faire beaucoup d'arnaques et puis il va aller plusieurs fois en prison.
Mais sauf pour l'histoire des plombs,
oui,
c'est des durées très brèves. Mais pour les plans, non, c'est sérieux.
Alors justement, à propos
de plans,
c'est sa première incarcération qui va durer quand même presque 2 ans. Ça se passe à la prison des plombs à Venise, ainsi nommée parce que les toits étaient en plomb et que la chaleur tapait terriblement dessus. Christophe Brault.
Une minute après, 2 sbires me portèrent mon lit et s'en allèrent pour revenir d'abord avec toutes mes hardes. Mes 2 heures s'écoulèrent sans que je ne revisse personne, malgré que les portes de mon cachot fussent ouvertes. Ce retard me causait une foule de pensées, mais je ne pouvais rien deviner. Devant tout craindre, je tâchais de me mettre dans un état de tranquillité, fait pour résister à tous ceux qui pouvaient m'arriver de désagréable. Outre les plombs et les 4, les inquisiteurs d'État possèdent aussi 19 autres prisons affreuses. Sous terre, dans le même palais ducal où ils condamnent des criminels qui ont mérité la mort. Tous les juges souverains de la terre ont toujours cru qu'en laissant la vie à celui qui a mérité la mort, on lui fait grâce, quelle que soit l'horreur de la peine qu'on lui substitue. Il ne semble que ce ne puisse être une grâce que paraissant telle au coupable, mais ils la lui font sans le consulter. Elle devient injustice. Ces 19 prisons souterraines ressemblent parfaitement à des tombeaux, mais on les appelle puits parce qu'ils sont toujours inondés par 2 pieds d'eau de la mer qui y entrent par le même trou grillé, par où ils reçoivent un peu de lumière. Ces trous n'ont qu'un pied carré d'extension. Le prisonnier est obligé, à moins qu'il n'aime d'être toute la journée dans un bain d'eau salée jusqu'aux genoux, de se tenir assis sur un tréteau, où il a aussi sa paillasse et où l'on met au point du jour son eau, sa soupe et son pain de munitions qu'il doit manger d'abord, car s'il tarde, des rats de mer fort gros iraient le lui arracher des mains. J'ai passé une cruelle journée. La forte chaleur commença vers midi. Je croyais positivement d'étouffer. Je me trouvais dans une véritable étuve. Il me fut impossible de manger ou de boire, car tout était corrompu. La faiblesse causée par la chaleur et par la sueur qui sortait de tout mon corps à grosses gouttes ne me permettait ni de marcher ni de lire. Mon dîner, le lendemain, fut le même. La puanteur du veau qu'il me porta vint d'abord à mon odorat. Je lui ai demandé s'il avait ordre de me faire mourir de faim et de chaud et il s'en alla sans me répondre.
Merci, merci Christophe. Chantal Thomas, Casanova, après 2 ans d'incarcération, va réussir une évasion mémorable, extraordinaire, vraiment digne, je sais pas moi, d'un film d'action américain très très fort. Mais la question qui se pose, est-ce que c'est l'Inquisition qui l'envoie en prison?
Oui.
Pour ses malversations?
Il est envoyé en prison pour ses malversations, et ce qu'on lui reproche, c'est d'abord d'aller rendre visite à des femmes mariées, ensuite les inquisiteurs viennent chez lui, font une perquisition et on trouve ses livres d'alchimie, oui. C'est surtout ça.
On ne lui reproche pas, par exemple, d'être un mécréant
Si, à cause de ses textes d'alchimie.
Alors, juste en passant, pour voir à quel point le personnage est retors et peut se retourner, quelques années plus tard, il va être obligé de s'enrôler comme indicateur pour l'Inquisition, à charge de lui de dénoncer les ouvrages licencieux. C'est incroyable.
Oui, mais alors ça, c'est il a près de 60 ans.
Oui.
Ça, c'est pas dans l'histoire de ma vie. C'est ce qui ne racontera pas l'histoire de ma vie. Et c'est quand il revient à Venise, parce qu'il y revient finalement, et il a cette phrase extraordinaire, j'ai eu l'impression de revenir sur mes pas, sur la question de l'exil, et finalement que c'était cette pente que j'allais descendre jusqu'à ma mort. C'est très ambigu comme retour.
Et il va être chassé encore de
Venise. Il va être chassé encore, et en effet, il est dans une telle misère, et aussi parce que sans doute il est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, de vraiment amoral, il va accepter de faire des rapports aux inquisiteurs, en particulier sur les livres libertins.
Mais Chantal, il y a quand même une période faste dans sa vie, très faste, entre, je sais pas, 25 et 50 ans, quand il est un personnage célèbre, son évasion l'a rendu célèbre, voilà. Pas ses écrits, parce qu'il écrit un peu, mais on le prend pas au sérieux, et il est invité dans toutes les cours royales d'Europe.
Mais c'est son évasion qui va être sa carte de visite, parce qu'après son évasion, il arrive à Paris, et comme il a connu le cardinal de Bernis dans des conditions délicieuses à Venise, le cardinal de Bernis va le prendre sous sa protection et il va vraiment favoriser tous ses projets à Paris, et entre autres ce projet de loterie royale qui va durer jusqu'à la Révolution, et aussi il va l'introduire à la cour, mais il ne fait que passer dans les cours, mais il y passe.
Mais il dit quelque part quand même qu'il fréquente Madame de Pompadour et qu'il fournit au roi Louis XV des jolies filles.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est quand même un peu derrière les paravents du côté du parc aux cerfs. Hein.
Bon, quand même, à cette époque, Chantal Thomas, il fréquente tous les grands esprits. Il va voir Voltaire. Il rencontre ces deux hommes qui le fascinent, le comte de Saint-Germain et Cagliostro. Il passe pour un esprit fort, subtil. Il est vraiment considéré comme un philosophe à cette époque.
Je sais pas vraiment. Je pense que à chaque fois il étonne,
oui.
et je pense que sa parole était spectaculaire, mais il a pas d'écrit, comme vous
pas
dites.
Beaucoup en tout cas.
Il a quasiment rien. Donc je crois que tout ce qui se passe se produit dans le dialogue.
Alors il est à Paris à une époque pré-révolutionnaire très intense. Il sent venir la révolution. Il en parle.
Ça l'intéresse pas la révolution.
Non.
Ça l'intéresse pas du tout parce que justement il fait partie de ces gens. D'abord, il ne croit pas à un bonheur qui viendrait de la société. Ça, non. L'égalité, ça ne l'intéresse pas du tout, parce que ce qui l'amuse, c'est de jouer avec les inégalités. Travailler, ça lui fait franchement horreur. Alors, vous voyez, le programme d'un citoyen, ce n'est pas vraiment son ambition. Hein.
Non. Et puis, il est sorti de la plèbe, en quelque sorte.
C'est ça, il a horreur de la pauvreté. Il
oui.
a horreur.
Ben, on le comprend un peu, quand même.
Voilà.
D'accord. Alors, à quel moment est-ce que le sens de la finitude, de sa séduction, de sa vie facile, le rattrape?
Il y a deux moments forts pour lui. Le premier, il est à Londres. Il a 38 ans. Et il est séduit par une très jeune prostituée qui a 16-17 ans et qui se refuse à lui.
La Charpillon.
Voilà. Et elle lui dira, vous ne m'aurez ni par argent ni par violence. Il faut que je vous aime. Et c'est une histoire vraiment fascinante. Et jamais il l'aura. Elle lui échappera jusqu'au bout. Il écrit dans ses mémoires, de ce moment j'ai commencé de mourir. Mais il a 38 ans et il va continuer. Et la dernière date, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, en 1774. Là, il a près de 60 ans. Il arrête ses mémoires et il revient à Venise.
Oui, et vous savez, dans le film, magnifique film d'Ettore Scola, où il a,
oui.
C'est la fuite à Varennes, le roi et la reine quittent Versailles en douce, et Ettore Scola réunit dans un même carrosse Rétif de la Bretonne et Casanova. Donc les deux libertins discutent, et là on voit un Casanova vieilli, fatigué, désabusé, rencontre avec une jeune femme séduite par lui durant ce voyage.
Monsieur Casanova, je ne suis pas consolée. Ma vie est un désert. J'ai eu le souffle coupé en vous voyant. Vous avez fait votre 1000e conquête dans la voiture. Je vous en prie, ne la refusez pas. Aujourd'hui, tout est possible. C'est vous qui l'avez dit. Faites alors que mon bonheur se réalise. Faites une folie. Emmenez-moi. Nous irons chez moi en Champagne. Ou bien vous voudrez. Je vous en prie. Giacomo.
Chère madame, ce que vous appelez une folie aurait été la pure sagesse jusqu'il y a quelque temps, mais à 66 ans, on acquiert un autre type de sagesse qui ne donne pas le bonheur, mais qui vous évite les déceptions. Je vous remercie de votre double proposition. Votre beauté et votre belle maison de campagne. J'aurais aimé l'une et l'autre. Voyez-moi. Je suis le seul qui puisse avoir des regrets. Ce n'est pas ce vieillard qui vous a coupé le souffle, mais son nom, sa réputation, son passé. C'est ce que je dis. N'existe plus. En tout cas, chère madame, merci.
Chantal Thomas, c'est très beau et c'est très émouvant. Hein. Le séducteur qui ne peut plus compter sur sa séduction, et ça le tue d'une certaine manière, parce que toute sa vie, ça a été les femmes qu'il a tellement aimées et qui l'ont tant aimé. À cette période, donc, pendant la fuite, selon le film d'Ettore Scola, il est quasiment emprisonné chez un comte, enfin, emprisonné, c'est beaucoup dire, il ressent la chose comme ça, qu'il a séduit par son bel esprit, il l'a engagé comme bibliothécaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce château ?
Casanova, donc, après avoir été chassé de Venise, à plus de 60 ans, comprend que sa vie d'aventurier est terminée, il faut qu'il trouve une solution. Et il est d'abord secrétaire à Vienne d'un ambassadeur italien, et il rencontre le comte de Waldstein, qui est le neveu du prince de Ligne. Et dans un repas, encore une fois, avec ses histoires d'alchimie et tout ça, l'autre est tout à fait enthousiasmé. Il lui dit « Je rentre à mon château demain, accompagnez-moi ». Donc il accepte cette offre et il va passer les dernières années de sa vie, mais longtemps, puisqu'il meurt en 1798, dans ce château, pas très loin de Prague. Il est bibliothécaire et il est malheureux puisqu'en fait il n'y a pas de société, sauf l'été où la famille du comte vient, etc. Et puis il déteste la langue allemande. Donc
il y a
ça,
un autre élément
qui
le rend très malheureux, c'est que le personnel, les domestiques le traitent très mal, ils se moquent de ses manières un peu désuètes, il rit de sa perruque poudrée. Et lui, à ce moment-là, il développe un caractère épouvantable, il les pourchasse à coups de bâton. Enfin, c'est...
Oui, ça se passe mal.
Oui.
Mais il faut dire aussi quelque chose, c'est qu'il est sauvé de la misère. Bon,
oui.
C'est quand même pas rien. Et il a tout son temps pour écrire, et c'est là où il écrit son œuvre finalement. Donc c'est un petit peu à double tranchant, cette histoire.
Dans cette année 1797, à l'âge de 72 ans, où je peux dire vixi, quoique je respire encore, je ne saurais me procurer un amusement plus agréable que celui de m'entretenir de mes propres affaires et de donner un noble sujet de rire à la bonne compagnie qui m'écoute, qui m'a toujours donné des marques d'amitié et que j'ai toujours fréquenté. Pour bien écrire, je n'ai besoin que de m'imaginer qu'elle me lira. Quae cumque dixi si placuerin dictavit auditor. Pour ceux qui regardent les profanes que je ne pourrais empêcher de me lire, il me suffit de savoir que ce n'est pas pour eux que j'ai écrit. Me rappelant les plaisirs que j'eus, je me les renouvelle et je ris des peines que j'ai endurées et que je ne sens plus. Membre de l'univers, je parle à l'air et je me figure de rendre compte de ma gestion comme un maître d'hôtel le rend à son seigneur avant de disparaître. Pour ceux qui regardent mon avenir, je n'ai jamais voulu m'en inquiéter en qualité de philosophe, car je n'en sais rien. et en qualité de chrétien, la foi doit croire sans raisonner, et la plus pure garde un profond silence. Je sais que j'ai existé, et en étant sûr, parce que j'ai senti, je sais aussi que je n'existerai plus quand j'aurai fini de sentir. S'il m'arrive après ma mort de sentir encore, je ne douterai plus de rien. Mais je donnerai un démenti à tous ceux qui viendront me dire que je suis mort.
Merci Christophe Brault. Chantal Thomas, ce démenti finalement, c'est la brillance, la qualité, toutes ces scènes extraordinaires, son talent d'écriture qui va le rendre immortel.
D'une manière, elle aussi, très casanovienne, parce que complètement fantasque.
C'est un bel écrivain, mais selon vous, est-ce que c'est un grand écrivain ?
Moi, je trouve que c'est un écrivain dans le style qui n'a pas de beauté de style, très exactement, mais qui sait raconter et qui sait faire se dresser des scènes vives.
C'est ça.
Et on l'a vu en vous écoutant, Christophe. C'est pas beau à chaque fois, mais tout d'un coup, il y a deux phrases qui sont absolument ravageuses. C'est le contraire de Nerval, ou c'est pas un bel écrivain en ce sens.
Oui, mais en même temps, il a un sens de la scène, c'est-à-dire qu'il fait des rebondissements, il fait des digressions comiques. Il y a une mise en scène comme ça de l'écriture très très vive, très amusante, n'est-ce pas ? Et alors moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'il est sincère. Évidemment, il s'enjolive un peu. On sent qu'il a un amour de soi immodéré, mais en même temps, il ne triche pas. Il dit oui, j'ai été escroc, oui, j'ai trompé mon monde, oui, j'ai été stupide à tel endroit. Il a, par rapport à ses mémoires, parce qu'on se déguise toujours un peu dans ses mémoires, une espèce d'honnêteté comme ça, de confession.
Il n'y a pas de jugement, il n'atteint aucun jugement. Et il est seul, c'est sûr, mais face à sa page, il est souverain.
Je prétends à l'amitié, à l'estime et à la reconnaissance de mes lecteurs. À leur reconnaissance, si la lecture de mes mémoires les aura instruits et leur aura fait plaisir. À leur estime, s'ils m'auront trouvé, me rendant justice, plus de qualité que de défaut. Et à leur amitié d'abord, qu'ils m'en auront trouvé digne par la franchise et la bonne foi avec laquelle je me livre sans nul déguisement, tel que je suis à leur jugement. Ils trouveront que j'ai toujours aimé la vérité avec tant de passion que souvent j'ai commencé par mentir pour la faire entrer dans des têtes qui n'en connaissaient pas les charmes. Ils ne me condamneront pas quand ils me verront vider la bourse de mes amis pour m'en servir à satisfaire à mes caprices. Ils avaient des projets chimériques et leur en faisant espérer la réussite, j'espère en même temps de les guérir de leur folie, les désabusant. Je les trompais pour les faire devenir sages. Et je ne me croyais pas coupable, car ce qui me faisait agir n'était pas un esprit d'avarice. J'employais à payer mes plaisirs des sommes destinées à parvenir à des possessions que la nature rend impossibles. Je me croirais coupable si aujourd'hui je me trouvais riche. Mais je n'ai rien. J'ai tout jeté, et cela me console et me justifie. C'était un argent destiné à des folies. J'en ai détourné l'usage, le faisant servir aux miennes.
Il va mourir en 1798, seul dans son château, avec sa petite chienne qu'il adore. Et son neveu accourt et il lui remet ce manuscrit qui va passer complètement inaperçu. Il ne sera publié que très longtemps après sa mort. Et on assistera à un engouement pour l'œuvre de Casanova beaucoup, beaucoup plus tard. Alors, je me demandais s'il était plus facile pour une femme d'aimer Casanova, je veux dire son œuvre, qu'un homme, par exemple, si l'on pense...
Je suis mal placée, moi, parce que...
Oui, vous l'adorez, d'accord, mais à votre avis, par exemple, la détestation de Fellini, qui lui a consacré un film magnifique, le Casanova de Fellini, il le montre comme une espèce de crétin, écervelé, qui fait l'amour comme un gymnaste, et il le déteste, visiblement.
Ah oui.
Pourquoi ?
Alors, bon, mon idée, c'est qu'il le voit exactement comme dans La Cité des Femmes, le mal... Italien, macho, crétin, comme on peut.
Macho, et pourtant, même Fellini qui le déteste, voilà ce qu'il va mettre dans la bouche de Donald Sutherland à propos des femmes. Sutherland qui incarne cette espèce de monstre en lady, en perruqué, qui joue le personnage de Casanova.
Nous, les hommes, maltraitons fort les femmes. Elles subissent une véritable tyrannie. Mais si nous parvenons en général à leur faire accepter, c'est qu'elles sont plus bonnes. Plus raisonnable, plus généreuse que les hommes. Et ces qualités qui eussent dû leur valoir la supériorité sur nous, les ont au contraire mises à notre merci, car il faut l'avouer, les hommes sont mille fois plus déraisonnables, plus cruels, plus violents, plus enclins par nature à opprimer autrui.
Mais les baisers des dames sont comme ce verre de vin. On boit, et on finit par succomber.
Oui, mais qui ne médit jamais des femmes ? Ne les aime pas. Parce que pour les comprendre et les aimer, il faut avoir souffert par leur faute. Alors seulement, on découvre le bonheur sur les lèvres d'une belle amoureuse.
Fellini montre, malgré lui, d'une certaine manière... Un Casanova féministe avant l'heure.
Juste par cette petite phrase, parce que dans l'ensemble, il montre un Casanova machiniste.
Oui, mais à votre avis, Chantal, je crois qu'il avait vraiment le respect et l'estime des femmes qui lui donnaient tant de plaisir.
Mais je pense que c'était une attitude générale par rapport au monde. Il était vraiment réellement curieux de l'autre, et en effet, vous l'avez dit, fou de lui, mais d'une manière qui ne faisait pas écran aux autres.
Si vous aviez rencontré Casanova, est-ce que vous auriez été séduite par l'homme ? Je ne parle pas de l'écrivain.
Oh ben ce serait vraiment absurde que je dise « j'aime l'écrivain mort et le vivant, j'en voudrais pas ». Non, bien sûr que j'aurais été séduite, mais bien sûr.
Merci infiniment Chantal Thomas de nous avoir tellement fait aimer ce personnage beaucoup plus complexe qu'on ne le prétend. Donc il faut lire les mémoires parce que vraiment c'est une lecture extrêmement amusante. Ces œuvres sont publiées chez Lafon. Merci beaucoup à vous Christophe Brault d'avoir si bien lu les textes de Casanova. Merci à tous et bonne soirée. Ne pas oublier non plus de lire le très beau livre de Chantal Thomas, Casanova, un voyage libertin. Alors voilà comment s'est terminée cette soirée dans l'allégresse, les salves d'applaudissements et puis une profonde émotion de la part de la salle, je crois en tout cas de la mienne, à l'idée qu'on ne se reverrait plus en tout cas sur cette salle du Théâtre de l'Odéon. À propos justement de l'équipe du Théâtre de l'Odéon, tellement chaleureuse et merveilleuse, je voudrais remercier tout particulièrement Marilène Boulan et Olivier Bordery, qui ont porté à bout de bras cette belle aventure. Cette émission est disponible, vous le savez, à la réécoute et en podcast sur le site de France Inter. Toute référence également sur le site Cosmopolitaine sur France Inter. Merci à Christophe Magère qui a préparé cette émission et à Michel Soulier qui l'a réalisée. J'embrasse Benjamin Thiot et Patrick Muller, là, derrière la vitre. Alors, dimanche prochain, pour la dernière de Cosmopolitaine, ce sera une émission spéciale avec de grands artistes, des écrivains, Makin, Laferrière, Toby Nathan, Tony Gatcliffe, Nancy Huston, des artistes qui ont commencé, dirais-je, tout petit, avec moi en même temps, il y a 17 ans, à Cosmopolitaine. Alors l'idée, c'est de se dire qu'en est-il des causes et des combats que nous avons menés pour la littérature étrangère et le cinéma 17 ans après. Voilà le contenu de cette prochaine émission. Après les infos, vous retrouverez Fabienne Chauvière et ses aventuriers. À la semaine prochaine, les amis, soyez fidèles au rendez-vous, c'est le dernier.